Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halid Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Transition au Mali, quelle analyse de l'évolution du processus dans le pays et qu'est-ce qui bloque la levée des sanctions, révision des listes électorales également, à quoi faut-il s'attendre? Voici les deux principaux thèmes qui vont être abordés au cours de ce forum de la presse. Si le temps nous le permet, nous aborderons également les inondations constatées à travers le pays. Alors, nos invités sur ce plateau sont tous des journalistes, Youssouf Sissoko du journal Info 7, Abdramane Keïta du journal Le Témoin et Fakara Faïké du journal Le Républicain au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Transition au Mali, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la levée des sanctions, Abdramane Keïta?
Bon, je pense que peu de choses bloquent la levée des sanctions après le geste que le CNSP vient de faire. En publiant la charte et en l'amputant des prérogatives litigieuses et qui effarouchaient la communauté internationale, en l'occurrence les prérogatives de remplacement et les pouvoirs de remplacement en cas d'empêchement définitif ou temporaire du président de la République par le président, par le vice-président Assimi Goïta, qui aurait été vraiment une possibilité de remettre les cartes qu'on croyait avoir détruites, c'est-à-dire un militaire à la tête de l'institution. Mais toujours est-il qu'il reste encore des exigences de la même institution nationale qui n'ont pas été satisfaites, notamment la libération des personnalités, des dignitaires, ce qu'ils appellent des dignitaires du régime, dont la détention ne s'explique pas normalement. Et je pense que cela ne fait peut-être partie. Je pense, ça c'est pour ce qui est vraiment de la chose la plus évidente. Et c'est peut-être ça. C'est en attendant de voir la CEDEAO, la commission de la. Non, je veux dire les instances de la CEDEAO, examiner le contenu de la charte qui vient d'être publiée dans le journal officiel, dans l'ensemble de ses compartiments, et en faire le jugement. Et qui permettrait d'élever les sanctions. Mais je pense qu'en réalité, ce blocage est l'essentiel des blocages sur lesquels la chose tenait. Et si les choses vont bien, on ne va pas tarder à avoir les sanctions levées pour le plus grand bonheur de tous.
Mais pensez-vous que ce document va satisfaire la CEDEAO puisqu'elle demandait qu'une assurance par rapport au fait que le vice-président ne remplace pas le président de la transition en cas d'empêchement? Mais dans ce document, il n'est pas dit que le vice-président va remplacer le président de transition en cas d'empêchement, mais il n'est non plus pas dit qu'il ne peut pas le faire.
Bon, il y a les textes, il y a aussi l'esprit. Si c'est vraiment le changement intervenu, on le sait, tout le monde le sait dans l'esprit, c'est intervenu parce pour ne pas l'amener à remplacer. Même si ce n'est pas dit là-dedans, il y a un non-dit qui l'emporte sur ce qui n'a pas été dit. Le non-dit, c'est quoi? C'est que ça, les textes de la CEDEAO et les décisions de la CEDEAO l'emportent sur la charte. Même si ce n'est pas dit là-dedans, si la situation se présentait, je pense qu'on va l'examiner. Nous avons des instances ici nationales pour l'examiner et qui vont accorder la prééminence à l'esprit des recommandations et des exigences issues de la conférence des chefs d'État, ou je sais pas, du sommet de la CEDEAO.
Les sanctions contre le Mali seront levées dès que la charte de la transition sera publiée. C'est cette déclaration qui avait été faite hier par le représentant permanent de la CEDEAO au Mali, professeur Hamidou Boly. Mais au lendemain de la levée de ces sanctions, au lendemain de la publication de cette charte, les sanctions ne sont toujours pas levées. Est-ce que vous comprenez cette situation, monsieur Sissoko?
Oui, moi je comprends parfaitement. Et permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs, tous les téléspectateurs de Studio Tamani. Et effectivement, je comprends parce que la CEDEAO a émis un certain nombre, en tout cas, de choses à l'endroit de la junte du CNSP. Et j'ai comme l'impression que, en tout cas, toutes les recommandations faites par la CEDEAO n'ont pas été satisfaites totalement par le CNSP. Et je pense que, comme l'a dit mon confrère Keïta, et après la publication, effectivement, il y avait quand même un certain nombre de choses qui avaient été demandées par la CEDEAO, notamment le fait que le vice-président ne pourrait pas remplacer, n'est-ce pas, le président de la transition en cas d'empêchement ou de vacance du pouvoir. Et ensuite, il y a d'autres points qui n'ont pas été satisfaits jusqu'à présent.
Notamment la dissolution du CNSP
et surtout la libération de certaines personnalités. Mais je pense que pour ce dernier point-là, la CEDEAO n'en fait pas trop un problème parce que c'est surtout le fait qu'ils sont arrêtés illégalement et que leurs dossiers n'ont pas été judiciarisés jusqu'à présent. C'est ce qui fait dire en tout cas la CEDEAO, soit qu'on judiciarise en tout cas leur dossier ou qu'on les libère tout simplement en attendant justement qu'ils soient appelés. Mais moi je pense que pour la levée des sanctions, la CEDEAO, effectivement il y a trop de zones d'ombre jusqu'à présent dans la charte. Parce que effectivement le CNSP a fait de la charte, en tout cas, sa chose, parce que même sur le plan national, vous avez dû remarquer après les concertations qu'un pas important, en tout cas, de la contestation qui est le M5-RFP, avait justement émis beaucoup de doutes et beaucoup de suspicions au niveau de la charte. Et c'est pourquoi d'ailleurs le M5-RFP avait, n'est-ce pas, demandé à la junte justement de faire en sorte que les conclusions, en tout cas les recommandations, les amendements que le mouvement avait fait, que ces amendements soient pris en compte. Mais jusqu'à nos jours, le CNSP n'a pas fait justement de ça, en tout cas une priorité, jusqu'à ce que la CEDEAO, en tout cas, a pris cette décision, justement de ne pas lever la sanction, jusqu'à ce que tout soit clarifié au niveau de la charte. Je pense honnêtement que pour la junte, il faudrait justement que, en tout cas, très rapidement, que ces recommandations soient prises en compte parce que le Mali est en train de souffrir véritablement. Et depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, il n'y a pas de gouvernement et la situation ne fait que s'empirer. Donc la situation financière, la situation économique, tout simplement, ne fait que s'empirer. Moi, je pense que le Mali gagnerait plus et la transition, en tout cas, gagnerait plus, en tout cas, et à ce que la CEDEAO lève ses sanctions.
Pour justement, que le Mali et par rapport aller à la demande de dissolution du CNSP, il y a le CNSP qui a estimé que le CNSP ne peut être dissous que si tous les organes de la transition sont mis en place. Alors, faut-il attendre jusqu'à la mise en place du Conseil national de la transition pour la levée des sanctions contre le Mali?
Moi, je pense que la balle est dans le camp du CNSP dans tous les cas, parce que si le CNSP le veut bien, de demain, toutes les sanctions seront levées, parce que en plus
de la clarification... Donc c'est le CNSP qui bloque.
C'est le CNSP qui bloque, clairement.
Fakara Faïké, est-ce que vous partagez cet avis de Sissoko, que c'est le CNSP qui bloque aujourd'hui la levée des sanctions contre le Mali?
Effectivement, M. Touré, je pense que ce que les camarades ont dit, c'est une réalité. La junte doit savoir qu'elle a joué un rôle historique pour l'avènement d'un Mali nouveau dont tous les Maliens assurent. Je crois qu'elle doit s'en tenir à ce rôle historique si elle veut rester dans les plus belles pages de l'histoire du Mali. Les effets qui sont en train de jouer au jeu d'échecs pour faire savoir à ces jeunes qu'ils peuvent encore faire ce pays se trompent, les trompent aussi. Ceci sent bien que le pays est confronté à deux enjeux majeurs. Il y a des problèmes internes, à savoir l'insécurité, la maladie du Covid-19 et les revendications sociales. À ceci s'ajoute l'environnement international. Vous savez, M. Touré, que depuis 2012, le Mali évolue dans un environnement international qui l'oblige à tenir compte d'un tel aspect. Dès lors, la junte ne doit pas perdre de temps. Il s'agit d'accepter ce que la CEDEAO a demandé pour redonner confiance à nos partenaires. La junte a d'autres tâches plus importantes. Assimi Goïta et ses camarades doivent s'inscrire dans cette affaire. Il s'agit de prendre la sécurité à bras de corps, inscrire leurs actions dans la loi d'orientation de programmation militaire. Là, ils pourront apporter plus au pays, surtout que celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui est un ancien officier à la retraite qui sera à même de comprendre toutes les initiatives et suggestions qui lui seront faites. Donc je dis qu'aujourd'hui, la politique, c'est aux politiciens. Les politiciens aussi doivent savoir que le travail politique est loin d'être fini. La politique, M. Touré, c'est une profession, c'est un métier. Il y a la charte des partis. il y a le code électoral, il y a des réformes qui attendent le pays. Le pays, alors aujourd'hui, les politiques doivent s'inscrire dans cette dynamique pour un Mali nouveau.
Et on va y revenir par rapport aux réformes, notamment avec la révision des listes électorales qui a démarré hier. Alors, concernant toutes ces conditions, il y a tout de suite M. Sissoko qui estime que c'est le CNSP qui bloque la levée des sanctions. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO également demande trop de choses, M. Keïta?
Je ne pense pas que la CEDEAO a posé ces problèmes. Je pense qu'il y a un problème de dialogue. Il y a un problème de méfiance qu'on doit pouvoir transcender de chaque côté.
Méfiance de quoi est-ce que la CEDEAO a peur?
Puisque si vous lisez bien, pas la CEDEAO, c'est tout la junte. Et il y a pas, je pense que le mur de la méfiance n'a pas été brisé jusqu'à présent. Il n'y a pas le dialogue nécessaire dans les dimensions qu'il faut, comme ce fut le cas en 2012 avec la junte précédente, où ils ont négocié leur départ. Il faut qu'on déclenche un processus comparable à celui de 2012 pour que vraiment on puisse s'en sortir réellement. Puisqu'il faut que les gens, que si en lisant bien la charte, on sait qu'il y a une paire bleue qui anime quand même la junte par rapport aux actes qui ont été posés. Ils ont posé un acte qui est considéré dans la Constitution comme quand même un acte imprescriptible, un crime imprescriptible. Comme c'est concerne les assurances qui leur sont données, comme quoi, en se mettant à l'écart, en permettant le processus de se dérouler sans aucun contrôle de leur part, ils ne seront pas jetés en pâture après et ils ne paieront pas pour l'acte qu'ils ont posé. C'est pour cela que vous verrez dans la charte qu'il est mis que le Conseil national de transition qui a été mis en place devra après voter une loi d'amnistie pour les actes posés à partir du 18 août. Ce n'est pas gratuit. Et ce n'est pas gratuit aussi quand ils disent que il faut que l'ensemble des organes, donc si vous voulez, le CNSP voudrait être assuré de la composition de l'ensemble de ces organes-là avant de se mettre en retrait. Ça fait partie pour moi des motivations qui bloquent cette situation.
Est-ce que ça veut dire que le CNSP doit intégrer,
mais avoir un contrôle sur ça, savoir qui sera, qui va y siéger. Ils savent déjà qui siège comme président de la transition, ils savent qui est le chef du gouvernement, ils ne savent pas pour l'instant qui sont les membres du gouvernement, ils ne savent pas qui sont les membres du CNT, alors que c'est le CNT qui doit se prononcer sur cet aspect.
Dans ce cas, qui va réellement diriger le pays? Est-ce colonel Assimi Goïta qui est le vice-président, qui est le chef de la junte actuelle, ou est-ce le président de la transition Bandao?
C'est le président de la transition, normalement, qui seront tous les
normalement.
qui vont gérer le pays, mais c'est vrai qu'il sera caporalisé. Il sera. En tout cas, il y a l'intention de le suivre, de l'épier, de le caporaliser pendant toute cette gestion. Tout ça parce qu'il y a. Je pense qu'il y a des
Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Il y a l'intention de le caporaliser.
Bon, quand on voit Assimi Goïta présent là où le président de la transition se trouve, et dans ses treillis, quand il rencontre les ambassadeurs et autres membres de la communauté internationale, le chef de l'État, ça ne fait pas beau à voir, mais il sent le besoin d'être là pour se dire qu'en réalité, les choses ne sont pas en train de se tramer dans leur dos.
Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous fait craindre quelque chose?
Cela traduit un peu une certaine crainte, une certaine méfiance de lâcher les choses, de lâcher les ficelles. Donc il y a un besoin d'avoir les ficelles en main pour se rassurer. Je pense que la CEDEAO doit comprendre cela aussi et mettre les cartes sur la table par rapport à ça et gérer avec eux la façon dont ils pourront s'en sortir.
Il y a une intention de caporaliser le président de la transition. Est-ce que vous partagez cet avis de M. Keïta?
Oui, je partage entièrement cela parce que franchement, depuis le coup d'État, moi je ne tournerai pas autour du pot comme Abdramane. Parce que j'ai comme l'impression que ce soit des journalistes ou des universitaires. Hein, les universitaires essaient justement d'amadouer un peu la junte militaire, le CNSP. Mais moi, je pense que le CNSP est en train de rater son tournant historique. Je dis ça pourquoi? Parce que depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, le CNSP et les membres du CNSP n'ont pas caché leur volonté, leur ambition, leur prétention justement de gérer ce pays-là. Alors qu'il faut que cela soit clair. Et la CEDEAO, moi je suis totalement d'accord avec la CEDEAO. qu'il ne faudrait jamais permettre, en tout cas aux militaires, d'avoir même une petite portion du pouvoir. C'est vrai, il le dit, ils ont fait le coup d'État, mais ils n'ont fait que parachever, justement. Et je vous avoue que si, en tout cas, il n'y avait pas eu d'insurrection populaire, aucun militaire n'oserait pas descendre, en tout cas, sur la scène politique pour mettre fin à un régime démocratiquement élu.
Et il y a le M5, même à travers Cheikh Macky Sonko, qui déclare que le CNSP n'a pas respecté un deal entre les deux mouvements.
Ses engagements, c'est...
Présidence pour le CNSP et primature pour le M5RP.
Oui, ça veut dire que je veux tout seulement dire que le CNSP a essayé tout simplement de neutraliser, ça c'est leur terme, peut-être un terme militaire, neutraliser carrément le M5-RFP, parce que tout simplement le M5-RFP était devenu gênant pour la junte, et parce que tout simplement la junte a voulu gérer justement sa transition. Je mets ça entre guillemets, sa transition, parce que tout simplement le CNSP, d'abord Assimi voulait être lui-même le président, ensuite il voulait avoir la même mise en tout cas sur tous les organes de la transition, ce qui est totalement aberrant en tout cas en démocratie. Donc moi je pense que, je l'ai dit au départ, ils sont en train de rater leur tournant historique, parce que en voulant trop tirer sur la corde, en voulant trop en tout cas vouloir trop s'accaparer des rênes du pouvoir, ils risquent en tout cas de sortir bredouille, parce que ce qui se dessine en tout cas, c'est que ils risquent en tout cas d'avoir un tandem entre Mokhtar Wane et Bandao pour isoler carrément la junte. Et en ce moment, ce duo-là risque d'être soutenu par la communauté internationale pour fragiliser, n'est-ce pas, les militaires. Donc s'ils sont malins, c'est justement de s'éclipser très rapidement. C'est-à-dire que dès que le gouvernement sera mis en place, que le CNSP soit dissous, ils vont eux-mêmes se dissoudre, en tout cas dans le CNT qui va être mis en place. Moi, je pense qu'en faisant cela, ils vont sortir peut-être un tout petit peu par la bonne porte de l'histoire. Sinon, à ce rythme-là, moi, je pense qu'ils risquent en tout cas de perdre totalement.
Fakaram Faïké, vous êtes-vous rassuré ou inquiet par rapport à l'évolution de ce processus de transition?
Bon, moi, je suis un peu inquiet, parce que c'est ce que j'ai dit, les experts qui sont en train de leur faire savoir que, alors, ils ont encore d'autres rôles à jouer au niveau de cette transition, sont en train de les tromper, parce que ces experts savent bien que le Mali évolue dans un environnement international où vraiment il y a des enjeux qui nous attendent. Et l'enjeu sécuritaire et l'accord de paix et la réconciliation nationale. Et ces experts savent qu'aujourd'hui, ces partenaires qui sont là pour nous appuyer ne vont jamais accepter à ce que la junte dirige vraiment la transition. Et ce n'est même pas bon pour Assimi et ses camarades. Ils feront dire vraiment de dissoudre quand même le CNSP qui risquera d'être une épine dans leurs pieds. C'est ce que j'ai dit. Il faut se rappeler ce qui s'est passé du temps de général Amadou Aya Kanogo, quand il y avait le CNRE2 derrière eux et puis Diongunda Traoré. Ce qui s'est passé, pratiquement, nous ne souhaitons pas ça. Mais comme il y a un proverbe malinqué qui dit que deux mâles hippopotames ne peuvent pas vivre au bord des mêmes fleuves, donc Assimi est là. Et le colonel à la retraite est là, vous savez bien que vraiment ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Donc, pour rester dans
Excusez-moi, le président Bandao, sa présence et la présence du vice-président colonel Assimi Goïta n'est pas bon pour le pays, c'est ce que vous dites ?
Il n'est pas bon pour le pays.
Pourquoi ?
Assimi a d'autres rôles à jouer. Il ferait mieux de s'occuper de l'affaire sécuritaire. C'est ce que j'ai dit. Pratiquement, il y a la loi de la programmation, la loi d'orientation et programmation militaire, où des enjeux sécuritaires sont là. Lui, il peut piloter ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives qu'ils peuvent apporter au président de la République pour amener la sécurité à l'intérieur du pays. C'est ça son rôle. Et jouer autre rôle, vouloir jouer autre rôle, vraiment la politique aux politiciens. Et les experts là savent bien que ce n'est pas bon pour le Mali. Et quand la communauté internationale, la CEDEAO, c'est-à-dire vont tourner dos à notre pays.
Donc, ça, Assimi Goïta et Bandao sont deux mâles hippopotames qui ne peuvent pas cohabiter ensemble.
Justement, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. On ne peut pas partager le pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé entre Diongunda et Aya. Et comment ça s'est terminé? Donc, moi, je dis, ce n'est même pas bon pour Assimi. Parce que vous savez, le CNFC va devenir un doublon. Il y a le ministère de la Défense, il y a le CNFC. Vous savez, quand les militaires savent que c'est le CNFC qui a la force, maintenant, il y a certains qui vont venir vers là, parce qu'ils vont, se dire que même pour être bien vu, pour avoir des galons, il faut s'allier au CNFC. Et le ministère de la Défense n'a plus d'existence. Là, ces doublons-là, ce n'est même pas bon pour eux-mêmes.
D'accord. Je rappelle que le CNSP est censé être dissous quand tous les organes de la transition seront mis en place. Monsieur Keïta, est-ce que vous partagez? Vous aurez la parole tout de suite.
Moi, je pense qu'il faut comprendre, il faut un peu examiner les choses, c'est-à-dire il faut examiner les choses en fonction de la motivation qui puisse... On parle de Bandaou et d'impossibilité de partager le pouvoir avec Bandaou. Bandaou, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est celui sur lequel le CNSP a jeté lui-même son dévolu. On ne leur a pas imposé. C'est tellement qu'ils ont eu des assurances d'une certaine manière.
Y a-t-il un arrangement entre eux ?
Un arrangement entre eux. Il y a quand même une identité de vue entre... Il devrait avoir suffisamment d'identité de vue entre eux et Bandaou pour qu'ils l'imposent parmi tant d'autres personnalités pour diriger la... pour qu'ils le choisissent parmi tant d'autres personnalités pour diriger la transition. Donc il n'y a pas une question entre eux-mêmes et Bandaou. Mais je pense qu'il faut examiner les choses en fonction de la motivation qui puisse les amener à rester au pouvoir. Est-ce qu'ils veulent rester au pouvoir pour les oripeaux, les avantages qu'ils veulent en tirer? Moi je carte un peu ça. Je ne pense pas que vraiment ils puissent risquer leur vie, puisque quand on parle aussi du CNSP, les gens parlent du CNSP, il ne s'agit pas seulement du CNSP, c'est l'ensemble de l'armée et des forces de sécurité qui ont adhéré à ce qui est considéré comme, en réalité, un coup d'État. Et quand je vois les politiques lever la voix pour dire qu'effectivement c'est eux qui ont fait le coup d'État et les autres, je dis mais il y a aussi une complicité de coup d'État au cas où ils seraient poursuivis pour coup d'État. Même leurs complices politiques vont subir aussi des coups. Donc, vous savez qu'il y a cette méfiance-là qu'il ne faut pas vraiment écarter, qu'en réalité, ils ont la conscience de n'avoir pas trop examiné, de n'avoir pas bien mesuré la portée de l'acte qu'ils avaient posé, qu'ils ne l'ont su que plus tard, et maintenant, ils cherchent des portes de sortie rassurantes. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut. Et ces portes de sortie rassurantes ne sont pas en train de leur être proposées. Eux-mêmes, ils n'en parlent pas. Il y a une certaine pudibonderie peut-être qui les anime, qui les empêche de parler de ça.
Mais en réalité, le comité d'experts trompe les dirigeants de la transition, c'est ce que pense Fakara. Est-ce votre avis aussi ?
Le comité d'experts trompe ? Non, les comités d'experts ne donnent que sur commande ce qu'on leur demande. Ils savent les dirigeants de la transition demandent, ce qu'ils veulent, et puis ils donnent des solutions, ils donnent des recettes en fonction de ce que les autres veulent. Et puis c'est tout, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Un comité d'experts, ce n'est pas des choses forcément indépendantes dans le cas de figure.
Certains se disent étonnés également parce que la charte de la transition a été publiée hier. Que comment la Cour suprême a accepté que les deux dirigeants, le président Bandaou et le vice-président, prêtent serment alors que la charte de transition...
C'est une grosse erreur. Mmh. C'est une grosse erreur de la... Une raison de plus pour que vous compreniez que les cadres, les experts, ne font les choses qu'en fonction de la demande. La partie qui demande.
Est-ce que la Cour suprême a fait ce qu'on lui a demandé?
Effectivement, la Cour, sur toute la ligne... La Cour suprême a fait ce qui lui a été demandé.
Est-elle donc indépendante?
Elle ne l'était pas. Mmh. Tout sauf indépendance. Il y a beaucoup d'autres lacunes qui ont été venues. La Cour constitutionnelle, comment une cour suprême peut, en répondant à la demande de l'avis du CNSP sur la prépondérance, la prééminence entre une constitution et la charte, accorde la prééminence à la charte, alors qu'il y a une constitution qui a été votée par référendum? Donc c'est parce que la Cour n'est pas indépendante. Bon, leur indépendance, leur manque d'indépendance, c'est leur posture peut se justifier aussi par un besoin d'accompagner la transition, de ne pas être un frein à la sortie de crise qui a été amorcée, mais elle est tout sauf indépendante.
L'indépendance de la Cour suprême remise en cause par M. Keïta, êtes-vous d'accord ?
Monsieur Sissoko, oui. Non, en fait, je crois qu'on ne peut pas parler d'indépendance. C'est pourquoi, d'ailleurs, tout le monde souhaite, en tout cas...
J'ai oublié d'ajouter autre chose. C'est qu'en réalité, la façon dont le déroulé même du truc, j'ai oublié d'ajouter ça, c'est quelque chose de très important.
On va y revenir.
Non, puisqu'ils ont, fait prêter serment en lisant un acte, un procès verbal d'huissier. Alors que normalement, on doit le faire en constatant d'abord la vacance de poste avec les documents qui attestent de la démission du président de la République, qui attestent de la dissolution de l'Assemblée nationale, de la dissolution de, du gouvernement de l'époque. C'est sur cette base-là qu'on voit, on doit aller pour faire une prestation de
serment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de dépendance. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons, en tout cas, pour lesquelles il y a eu cette levée de bouclier, en tout cas de la part du peuple, pour qu'il y ait changement. Et je crois que ce changement tant attendu et normalement doit être en tout cas amorcé au cours de cette transition. Non, la justice, effectivement, comme il l'a si bien dit, il y a eu trop d'erreurs lors de la prestation de serment, en tout cas du président, du vice-président. Et d'ailleurs, le fait justement de mettre en tout cas la charte, en tout cas au-dessus de la Constitution, c'est déjà une erreur très grave parce que la Constitution, quoi qu'on dise, a été adoptée par tout le peuple, alors que la charte, c'est juste quelques gens à qui à la cause, n'est-ce pas, du CNSP qui ont justement adopté cette charte. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je pourrais revenir un peu à ce que Keïta a dit, que la junte voudrait justement avoir des assurances. Moi, je pense que la junte s'est elle-même compliqué la tâche parce que dès le départ, si elle avait accepté justement de collaborer avec son allié naturel, l'allié naturel du CNSP, c'est le M5-RFP. Mais nous avons quand même constaté que le CNSP a tout simplement écarté, n'est-ce pas, le M5-RFP. Et c'est ce qui lui a compliqué la tâche. Et je pense qu'il est en train d'aller d'erreur en erreur. Et finalement, ce qui risque de se passer, c'est qu'au niveau de, à la tête de l'exécutif, il risque d'avoir en tout cas un chevauchement, en tout cas un certain conflit de compétences. Et je pense que ça ne facilitera pas du tout la tâche. Et les réformes tant souhaitées, il risque de ne pas venir quoi.
Le président, le vice-président et le premier ministre de la transition ont été choisis. La formation du gouvernement est attendue. Fakana Faïké, pensez-vous qu'aujourd'hui il y a un retard par rapport à cette formation du gouvernement de la transition?
Oui, évidemment, les tâches sont très nombreuses. Il y a un retard parce que tout compte fait. Jusqu'à présent, la CEDEAO n'a pas avalisé la charte. Ce qui est un problème. Parce que c'est le CNSP qui est en train quand même de rendre difficile la tâche. Parce que tant que le CNSP n'est pas dissous, vous serez bien d'accord avec moi que la CEDEAO ne va pas avaliser tout ce qu'on va poser comme acte. Donc la balle est dans le camp vraiment du CNSP. Il doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a tellement de tâches que le Mali doit faire face. Alors ils doivent se plier aux injonctions de la CEDEAO. Est en train de montrer la voie. Moi, je crois que de là, le gouvernement, former un gouvernement n'est pas chose facile, mais je sais que celui qui est là-bas, il est en train de faire des concertations.
Mais c'est le vice-président, colonel Assimi Goïta, qui est du CNSP, le président Bandaou n'est pas du CNSP, le premier ministre non plus. Alors, qui doit donc mettre en place ce gouvernement? Parce que vous estimez que c'est le CNSP qui bloque.
Oui, c'est le CNSP qui bloque.
Est-ce le CNSP qui doit mettre en place le gouvernement?
Non. C'est le Premier ministre en collaboration avec...
Le président Bandaou, vous voulez dire?
Le président Bandaou. Mais même si on mettait un gouvernement en place tout de suite, est-ce que, M. Touré, vous pensez que les choses... quand même, la CEDEAO va lever les sanctions? Je dis non. Bon, parce que pratiquement, ils ont fait un pas... Mais jusqu'à présent, on sent que alors les jeunes, quand même, veulent toujours garder le pouvoir. De là, nous n'avons pas encore bougé, à mon entendement. Alors, sinon, la mise en place d'un gouvernement, bon, ça ne doit pas dépasser une semaine. Mais même si on mettait le gouvernement en place, cela ne... Ça ne donne pas quand même l'assurance de la levée des sanctions.
Et je rappelle que nous sommes dans la même semaine puisque le Premier ministre a été nommé le samedi dernier. Alors, Abdramane Keïta, quoi faut-il s'attendre aujourd'hui par rapport à la composition de ce gouvernement de transition?
Bon, je ne sais déjà pas à quoi attendre puisque je ne vois pas encore. Je pensais que c'était chose facile. Donc avec les complications et puis la durée, je me dis qu'en réalité c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est la première tâche. Comme dit, certainement on a oublié d'inscrire ça parmi les tâches du Premier ministre de la transition, de se former d'abord un gouvernement, ce n'est pas chose facile. Oui, on doit s'attendre à ce qu'en réalité, je pense, on mette de côté à un gouvernement vraiment complètement neutre, et qui ne va pas s'attarder sur des distributions de portefeuilles, qui ne va pas s'encombrer de tâches supplémentaires de distribution de portefeuilles entre partis politiques, une forêt de partis politiques difficiles et de tendances difficiles à déterminer. Et on aura certainement un gouvernement très proche des gens qui ont, comme on le dit, parachevé l'œuvre.
Donc, vous attendiez à un gouvernement très proche du CNSP.
Très proche du CNSP. Et tout cela fait partie des choses pour lesquelles ça bloque, je suis sûr, puisqu'ils sont, faute d'être là-dedans pour tirer les ficelles telles qu'ils l'ont voulu avec la charte, puisque la CEDEAO a déjoué les stratégies qu'ils ont placées sur la table, ils vont se rabattre peut-être sur le gouvernement. Donc, il faut s'attendre à ce que le gouvernement soit vraiment un gouvernement très proche du CNSP.
Est-ce que le M5-RFP aura sa part?
Le M5-RFP, normalement, oui, peut-être pas dans les proportions qu'elle aurait voulu, puisqu'on parle beaucoup de M5-RFP. Je ne pense pas de quel M5-RFP on parle.
Il y a plusieurs M5-RFP aujourd'hui.
Mais c'est clair, il n'y a pas quelque chose de la junte ou bien du CNSP que l'autorité morale du M5-RFP n'a pas partagé. Or, c'est la consistance même du M5-RFP, la CEMAS. La CEMAS, qu'on le dise, lors des mobilisations et des marches dont le M5-RFP se prévaut pour réclamer une légitimité, l'essentiel de la légitimité populaire qui a dégagé le pouvoir précédent appartient à la CEMAS. Et la CEMAS n'a fait que vraiment revendiquer, s'accaparer ce qui lui était dû en mettant les autres composantes du M5-RFP.
Ce qui lui était dû, est-ce un partage de gâteau?
C'est une évidence. C'est une évidence qu'ils ont misé ensemble pour jouer. Ils ont raflé la mise. Ils ont laissé les autres sur le bord. Et je pense c'est avec la caution de l'autorité morale. Je ne sais pas s'il demeure encore l'autorité morale du M5-RFP.
Gouvernement proche du CNSP, vous dites. Est-ce que vous partagez?
Non, du tout. pas du tout, en tout cas, cet avis-là. En fait, il faudrait quand même que les gens comprennent la gestion d'un pays est politique. Donc, vouloir écarter les hommes politiques, en tout cas, de cette gestion, je crois que ce serait une erreur très grave. Parce que les réformes auxquelles on doit s'attendre, justement, ces réformes sont plus politiques, en tout cas, qu'économiques ou sociales. Parce que tout le problème du Mali, c'est que nous avons tout le temps participé, en tout cas, assisté à un tripatouillage électoral, à des scrutins truffés d'erreurs, de fautes, etc. Donc, c'est justement pour mettre fin à tout ça qu'on voudrait justement qu'il y ait ce changement-là. Donc, vouloir mettre en place un gouvernement sans les hommes politiques, moi, je pense que ce serait une erreur.
Mais faut-il s'attendre à ce que chaque leader du CNSP ait son ministère à gérer?
Oui, justement, c'est ce qu'il faut éviter. À mon avis, il ne faudrait pas. Les gens sont en train d'attribuer des rôles, en tout cas, aux militaires qui n'est pas le leur. Ce rôle n'est pas leur rôle parce qu'ils ne sont pas faits pour la politique. Ils doivent justement se consacrer à tout ce qui est défense et sécurité. Mais vouloir, en tout cas, se substituer aux hommes politiques, c'est justement là l'erreur. Et je pense que le gouvernement auquel moi je m'attends, franchement, c'est un gouvernement, en tout cas, de large ouverture, un gouvernement, en tout cas, où toutes les sensibilités. Que ce soit l'opposition, le M5-RFP, que ce soit la majorité, il faudrait... Non, si je dis large ouverture, en tout cas faire en sorte que toutes les sensibilités soient représentées. Parce qu'en mettant à l'écart tous ces gens-là, on risque en tout cas de connaître une transition très, très, très mouvementée et les gens n'accepteront pas. Et ceux qui, ceux qui vont être choisis et qui auront en tout cas la casquette de technocrate ou d'hommes neutres ou de gens de la société civile, franchement, c'est des gens peut-être qui n'ont pas assez d'expérience et pour en tout cas jouer pleinement le rôle que les Maliens attendent d'eux. Donc moi je pense clairement qu'il faudrait justement tenir compte justement de cet aspect-là.
Fakaran Faïké, pensez-vous que cette transition atteindra donc les objectifs qui lui sont assignés?
Oui, ça peut atteindre ces objectifs si quand même tout le monde s'impliquait. Je dis que cela ne peut pas se faire sans les politiques. Monsieur Touré, la politique c'est une profession. C'est un métier. Alors, vouloir écarter les hommes politiques, mais ça, c'est aberrant.
Même si une partie de la population dit ne pas avoir confiance aux hommes politiques aujourd'hui.
Non, quand même, dans tout ça, on a vu des militaires qui ont géré le pays. Moussa Traoré était un militaire. ATT était un militaire. Mais ils ont été critiqués dans leur gestion aussi. C'est pour dire que, c'est-à-dire, la politique, c'est un métier, c'est une profession. Et là, c'est là le domaine d'intervention des politiques. Quoi qu'on dise, on ne peut pas faire un pays tant que ces hommes politiques ne sont pas là. Par exemple, la charte des partis politiques, le code électoral, les réformes qui vont venir. Mais sans ces hommes politiques, vous serez d'accord avec moi que rien ne peut aller. Donc les politiques quand même doivent s'inscrire dans ce travail et qui doit se faire quand même pour un Mali nouveau. Et tout le monde s'attend.
Donc, tout le monde doit jouer son rôle, c'est ce que vous dites, au-delà du CNSP, au-delà des hommes politiques. Qui d'autre doit jouer quel rôle selon vous?
Il y a la société civile. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau de la société civile. Et ça doit, cette transition, tout le monde doit faire partie de cette transition. Et comme on l'a si bien dit, il y a la société civile, il y a les syndicats.
Tout le monde, ça ne risque pas d'être un partage de gâteau?
Non, ça ne sera pas. Mais des hommes qui seront choisis. On a dit qu'une fois que tu es dans la transition, tu ne peux pas prétendre à un autre poste. 18 mois, il y a des hommes qui sont intègres, il y a des hommes quand même qui peuvent apporter beaucoup de choses. On ne peut pas prendre les gens au hasard comme ça. C'est pour te dire que quand même, la politique doit revenir aux politiciens. Les militaires ont un rôle à jouer, par exemple, au niveau quand même de la sécurité. C'est là où j'appelle vraiment le colonel Assimi et ses camarades à s'inscrire dans cette voie. Et là, ils pourront apporter beaucoup de choses au pays et laisser vraiment la politique aux politiciens, parce que la communauté internationale est en train d'attendre le Mali quand même sur plusieurs plans. Là, les militaires ne peuvent pas jouer un grand rôle dans cet aspect-là.
Et c'est dans ce contexte que le processus de révision des listes électorales a été lancé hier à travers le pays. Peu d'engouement ont été constatés, notamment dans la capitale, des difficultés techniques signalées à Gao. Que pensez-vous de ce processus de révision des listes électorales dans ce contexte, M. Keïta?
C'est un processus normal. Et je prends déjà le bon de ceux qui l'avaient dit tout de suite. Je pense que c'est l'étape où les politiques doivent jouer beaucoup plus de rôle. Parce que c'est une étape très, très, très importante pour le reste du jeu politique qui viendra après. Puisque la révision des listes considérables consiste à procéder à des radiations, à des inscriptions d'office, des radiations d'office, à établir des tableaux de vérification de tout ça là, à ouvrir ces listes-là à des réclamations possibles, jusqu'à même à des recours.
Parce que ce n'est pas pour des modifications? Est-ce que des inscriptions sont réellement possibles pour ce...
Mais si. Si les gens, ce n'est pas forcément pour eux, c'est des inscriptions. C'est des inscriptions d'office. C'est-à-dire les électeurs qui auront atteint 18 ans.
Avec leurs empreintes
qui sont
déjà enregistrées.
Avec des commissions administratives au niveau des communes, au niveau des ambassades, là. Et les inscrits là-dedans. Déjà, vous avez déjà les listes qui existaient déjà. D'abord de les adopter, ces listes-là qui existent déjà, de procéder à des radiations pour ceux qui sont morts ou pour ceux qui sont déplacés d'une circonscription électorale à une autre, d'établir des listes, des tableaux de vérification de tout ça pour les réclamations, les afficher pour des réclamations possibles des citoyens, ceux qui s'estiment lésés, qui n'ont pas été inscrits, ou bien des simples électeurs qui ont constaté l'absence d'autres électeurs, peuvent faire des réclamations pour les réinscrire. S'ils n'ont pas satisfaction, ils peuvent aller jusqu'au niveau de la justice pour se faire inscrire. C'est ça, c'est là que commence le jeu politique. Et je pense que les politiques doivent plus s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que le processus a été déjà raté depuis les concertations nationales. C'est depuis les concertations nationales que les politiques devaient vraiment s'imposer pour être dans les concertations nationales et réclamer leur présence. Bon, je pense que procéder à cet exercice-là que je viens de vous décrire dans un pays occupé aux deux tiers, relève quand même d'une gageure. C'est très, très difficile d'avoir des listes propres dans ce contexte-là ou dans ce contexte d'insécurité pratiquement généralisée. Hein, dans la plupart des communes, les djihadistes sont en train d'empêcher les gens d'effectuer des mouvements à plus forte raison à des partis politiques et des représentants de l'État de se réunir pour examiner des listes électorales.
Ok. Fakran Faïké, pensez-vous comme Keïta qu'il sera difficile d'avoir des listes propres en un mois par rapport à cette révision des listes électorales?
Effectivement, parce que moi, je pense qu'il devrait y avoir d'abord une grande sensibilisation par rapport à ça. Et surtout dans les zones où il y a l'insécurité, quand même, il faut trouver des alternatives par rapport à ça pour que les gens quand même puissent s'inscrire. Et là, de région en région, il faut vraiment sensibiliser l'ensemble des populations. Mais se lever comme ça pour dire que les gens ont d'autres champs à fouetter, parce que la crise est là. Vous savez que le Malien vit du jour au jour avec cet embargo et les gens sont en train vraiment de se chercher.
Se lever comme ça, vous dites, est-ce que vous pensez qu'il y a des étapes qui sont négligées, notamment celles que vous citez qui concernent la communication?
Oui, dans le domaine de la communication. Par exemple, le studio Tamani et d'autres radios, comme nous sommes dans un pays où vraiment l'oralité est beaucoup plus quand même prise en compte, les gens écoutent beaucoup les radios, il faut sensibiliser les gens. Il faut donner des moyens vraiment à ces radios-là. Il y a plus de 700 radios au Mali. Quand même, là, il faut sensibiliser les populations. Il faut amener les gens vraiment à s'inscrire. Et là où il y a vraiment l'insécurité, il faut trouver des alternatives. Nos autorités, quand même, font souvent certaines choses. Au préalable, ils ne tiennent pas compte vraiment de certains critères. Parce qu'on dit que la radio, aujourd'hui, est la meilleure vraiment des inventions. Et donc, 700 radios, c'est beaucoup dans les campagnes. Les radios peuvent jouer quand même un grand rôle dans la sensibilisation pour que ce qui est arrivé au Mali n'arrive plus.
Et parce je rappelle que Studio Tamani joue déjà son rôle à travers ce débat des reportages, un message de sensibilisation qui sera diffusé pendant tout le processus de révision des listes électorales. Alors, M. Sissoko.
Effectivement, c'est Touré, comme les autres radios à l'intérieur. Il y a plus de 300 radios à l'intérieur du pays. Alors,
merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Sissoko. Oui, juste M. Sissoko qui va réagir.
Pas pour faire.
Monsieur Sissoko qui va réagir là-dessus. M. Sissoko, aujourd'hui, à quoi faut-il s'attendre par rapport à cette révision des listes électorales?
Non, il faudrait d'abord rappeler à nos auditeurs que c'est un processus normal, légal et traditionnel. C'est-à-dire chaque année du 1er octobre au 31 décembre, on procède à la révision. 1er octobre.
Au 31 octobre.
Au 31 décembre.
31 octobre, c'est ce qui est écrit dans les textes. 31 octobre, et voilà. C'est l'information qu'on a reçue avec le ministère de l'administration territoriale.
Donc, c'est peut-être possible. Donc, moi, je veux tout simplement dire que ce n'est pas quelque chose, en tout cas, de nouveau. Et c'est une tradition déjà. Chaque année, au mois d'octobre, on procède à ça. Et comme il a si bien dit, effectivement, c'est pour permettre, en tout cas, à ceux qui sont déjà décédés d'être radiés sur la liste, aux nouveaux majeurs d'être inscrits. Et aux gens qui ont justement changé de lieu de vote, de pouvoir faire le transfert. Moi, je pense que c'est une tradition, mais ça ne doit pas empêcher justement dans le cadre des réformes que l'État envisage, par exemple, un autre recensement pour permettre aux gens qui ne sont pas inscrits d'être inscrits pour pouvoir, en tout cas, faire une bonne liste qui, à la longue, en tout cas, permettra aux électeurs de voter tranquillement. Donc, moi, je pense honnêtement que ce n'est pas un fait nouveau. Et je crois que là où peut-être je suis peut-être d'accord avec tous mes co-débatteurs, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même ce manque de communication. Et j'en veux plutôt aux partis politiques parce que ça, c'est leur rôle. Ils devaient justement sensibiliser leurs militants pour qu'ils s'inscrivent en tout cas sur les listes. Maintenant, quant à l'État, moi, je pense qu'il y a des bonnes excuses parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Un gouvernement, il n'y a pas de gouvernement qui est mis en place. Donc, on pense que les autorités ne sont pas en tout cas sur place pour pouvoir jouer pleinement ce rôle-là.
Et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Merci à nos invités, Abdrahman Keïta du journal Le Témoin, Fakaran Faïké du journal Le Républicain, Youssouf Sissoko du journal Info 7, à la régie audio et vidéo, Mamadou Ouattara et Seydou Ndaou. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro du Grand Dialogue et Forum de la presse de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.